Salut, c'est Julie et bienvenue dans le sixième épisode de Galerie d'Art. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je rappelle le concept, relier l'art à la société. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la publicité. Alors voyageons sans attendre dans le monde de l'art publicitaire.
Oh, ça me saoule, je suis addict au jeu de la pastèque là, mais il y a tout le temps trop de pubs.
Moi je joue en mode avion, hein. The only way to fly, c'est moins relou.
Mais je crois que ça marche pas le mode avion.
Ouais bon, après tu sais que j'ai toujours des idées de génie quoi.
Mais t'en as pas marre avec tes rêves de pub là?
Non mais tu sais que c'est tellement intéressant en vrai. Alors laisse-moi te raconter l'histoire de l'art publicitaire.
M&M's Crispy, les M&M's légers et croustillants.
Tous vaccinés, tous protégés.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
La Seat Arona Urban est à partir de 139 euros par mois, sans condition de reprise.
Arrive, c'est vous la vie, pour les grands et les petits.
Elle est partout, elle est omniprésente, elle informe et influence. Faire connaître, faire aimer, faire acheter, c'est tout le principe de la publicité. C'est une forme de communication de masse dont le but est de fixer une audience cible afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité. Par exemple, l'achat d'un produit, l'élection d'une personnalité politique ou encore une incitation à certaines causes. En revanche, si on évoque le nom d'une entreprise, d'un magasin ou encore d'une marque, ça ne signifie pas qu'on est en train de faire de la pub. Cela le devient à partir du moment où le but recherché est d'attirer volontairement l'attention sur un objet ou de suggérer d'aller à tel ou tel endroit. La question qu'on se pose tous maintenant, c'est si la publicité est un art. Alors certains vont considérer que la publicité relève davantage du domaine du marketing et de la communication, mais il ne faut pas oublier que derrière tout cela se cache le processus de création de la publicité, qui comprend créativité et design visuel. La publicité donne aux objets une valeur imaginaire qui rend la consommation plus humaine. Et faire de l'art, c'est précisément embellir la représentation des objets usuels afin de toucher les émotions et les sens du public. Le but d'une publicité quoi. Donc oui, la publicité est de l'art, bien que ce ne soit pas son but premier. Alors commençons par le commencement. Il est difficile de dater exactement le début de la publicité. En revanche, on sait qu'il en existait déjà des formes à l'Antiquité. Par exemple, pour annoncer des combats de gladiateurs ou mettre en valeur des hommes politiques, on peignait des fresques murales. Des archéologues ont aussi retrouvé une inscription sur un mur de Pompéi. Je cite « Je suis émerveillé, ô mur, que tu ne sois pas encore tombé sous le poids de toutes ces niaiseries dont on t'a recouvert. » En fait, avant l'éruption du volcan, c'était la période électorale à Pompéi, ce qui veut dire que des publicités pour les hommes politiques étaient partout. Au Moyen-Âge, c'était des crieurs publics qui transmettaient les annonces publicitaires au public, sur les places des villes et des villages. Et puis l'invention de l'imprimerie a introduit de nouveaux supports de communication tels que l'affiche et le tract. Ces outils ont permis une diffusion plus large et plus efficace des messages publicitaires, marquant ainsi le début de l'ère moderne de la publicité. En 1633, Théophraste Renaudot, un journaliste français, créa la feuille du bureau d'adresse qui visait à inciter les particuliers et les marchands à venir faire leur pub dans les journaux. En gros, c'est un peu l'ancêtre des petites annonces. Mais c'est un échec, car de nombreux corps de métier interdisaient toute forme de publicité à l'époque. Et c'est en 1660 qu'on voit l'une des premières publicités être insérée dans un journal, le Mercurius Politicus, un hebdomadaire britannique servant de plateforme de propagande pour le régime du Commonwealth. C'était une publicité pour du dentifrice. Et avec la libéralisation de la presse en 1881, les journaux commencent à réaliser qu'ils ont besoin de la publicité pour survivre, d'où la généralisation de la publicité dans la presse. Avec l'industrialisation, la publicité prend un tournant. Entre le développement de l'image imprimée, des couleurs, des formes et des slogans, on assiste à une véritable révolution de la publicité. Avez-vous déjà vu certaines des affiches pour la marque de pneus Michelin? L'une des affiches les plus célèbres de Michelin est celle créée par O'Gallop en 1898. Elle met en scène le personnage emblématique de la marque, Bib & Doum, également connu sous le nom de Michelin Man. Dans cette affiche, Bib & Doum est représenté debout et tenant un verre rempli de clous, de morceaux de verre et d'autres objets pointus, avec un slogan qui dit « À votre santé, le pneu Michelin boit l'obstacle ». Plusieurs éléments artistiques sont présents sur l'affiche pour faire passer ce message. D'abord, les symboles des objets pointus qui représentent les dangers que les pneus Michelin sont censés affronter sur la route. Ensuite, l'affiche utilise une palette de couleurs vives avec des tons dominants de rouge, de blanc et de bleu. Ces couleurs attirent et contribuent à créer une esthétique visuelle dynamique et accrocheuse. Finalement, cette publicité démontre visuellement la résistance exceptionnelle des pneus Michelin aux crevaisons et aux dommages routiers grâce aux éléments visuels et artistiques présents. Comme quoi l'art est un élément important de la publicité.
Michelin keeps innovating so the world can move in better ways. Michelin, motion for life.
Le 18 octobre 1898, l'opérateur français Félix Mesguich projette la première publicité filmée au cinéma qui vante les mérites de la société Ripollin, qui est une marque de peinture. L'introduction de la publicité dans les salles de cinéma se produit par la suite au début des années 1920 par l'emploi de rideaux peints et de petits films muets. La radio et la télévision révolutionnent aussi la publicité en la démocratisant largement. On connaît tous au moins une publicité qu'on a vue à la télévision qui nous a marqué pendant notre enfance. Il faut savoir que la publicité est corrélée au monde économique. Par exemple, durant les Trente Glorieuses, où l'économie battait son plein, la publicité s'est vue acquérir une renommée et a commencé à différencier les marques sur le marché. Et si les affiches publicitaires ainsi que les spots audio et télévisés restent toujours efficaces pour promouvoir une marque, une nouvelle forme de publicité est née avec Internet à la fin du XXe siècle, avec l'introduction des bannières publicitaires, des liens sponsorisés ou encore des publicités vidéo. Les entreprises peuvent par exemple désormais faire la promotion de leurs marques et de leurs produits sur leur site web. Sans oublier les possibilités offertes par les réseaux sociaux qui permettent aux marques d'échanger et d'interagir avec leur public. Les publicités sont devenues l'une des sources de revenus les plus importantes pour de nombreuses enseignes à l'heure actuelle. Attention tout de même au piège des publicités trompeuses qui cherchent parfois à nous manipuler pour nous vendre des produits en cachant ou déformant la vérité. Vous avez sans doute déjà vu passer des publicités qui vantent la fraîcheur désaltérante de Coca-Cola avec ses bulles pétillantes. Cependant, la réalité derrière ces images peut parfois être différente de ce qu'elle semble être. En effet, lors des tournages publicitaires, le Coca peut être chauffé à cause des lumières autour et les glaçons et les bulles sont très souvent artificiels. Mais bon, c'est de la publicité quoi. L'objectif est de promouvoir le produit et de le présenter sous son meilleur jour, même si cela implique parfois une certaine manipulation visuelle.
Encore plus le goût de Coca-Cola. Toujours zéro sucre.
Une dernière chose reste à mentionner. Aujourd'hui, la publicité envahit notre quotidien. Elle est partout. Dans les médias, sur Internet, dans la rue. Elle est omniprésente et sans cesse en expansion. Il faut dire que les avancées matérielles et technologiques ont bien joué et jouent bien leur rôle là-dedans. L'art publicitaire est un outil puissant pour influencer nos perceptions, nos comportements et nos opinions. Et cette phrase me permet d'effectuer une belle transition vers la suite, parce que maintenant que vous connaissez l'histoire de la publicité, passons à la base même de cette émission. Relier l'art à la société. Et pour l'art publicitaire, j'ai choisi de vous parler de la publicité politique, c'est-à-dire la manière dont la publicité est utilisée par les personnalités politiques. La publicité politique est devenue quelque chose d'indispensable pour les candidats d'une élection. Il faut savoir que l'objectif principal est de persuader et d'influencer l'opinion politique dans le cadre d'une campagne électorale ou de promouvoir des idées politiques spécifiques. En examinant différents formats de publicité politique, tels que les affiches, les vidéos et les slogans, on peut observer comment les artistes et les stratèges publicitaires utilisent des techniques visuelles et rhétoriques pour promouvoir des idées, des candidats ou des messages politiques. Premièrement, l'affiche politique publicitaire a pour objectif de mettre en valeur une personnalité ou un message. Elle est souvent réalisée par un graphiste dont le métier est de combiner texte et images pour créer un message visuel efficace. Connaissez-vous l'affiche présidentielle de Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle de 2012 ? Nicolas Sarkozy a été président français de 2007 à 2012 et s'était présenté pour un deuxième quinquennat en 2012 avec une affiche qui a bien fait parler. Dessus, on y voit le visage de Sarkozy avec un léger sourire et un regard tourné vers l'horizon sur un fond de mer calme. Et un slogan affirmé en lettres blanches et en majuscules, la France forte. Mais alors, quel message se cache derrière ces éléments artistiques ? Déjà, le fait d'avoir mis le fond de la mer derrière est symbolique. Cela évoque la profondeur et l'étendue, soit une métaphore de la grandeur et de la puissance de la France sous la direction de Sarkozy durant son premier quinquennat. Le paysage est en accord avec son discours. La mer, soit la France, est calme car il est le pilote actuel. Sur l'affiche, il y a aussi une dominance des tons de bleu, couleur qui évoque la stabilité, la confiance et la sérénité, toujours dans l'objectif de rappeler qu'il est le bon pilote de la France. Son slogan, La France forte, est une façon de dire qu'il incarne la France forte à lui tout seul, ce qui permet aussi de renvoyer ses opposants à une France faible. Son regard tourné vers l'horizon donne l'idée qu'il est sûr de lui. Finalement, le message qu'il cherche à faire passer est qu'il est aux commandes depuis 5 ans, donc il a l'expérience de gouverner, on se doit de lui faire confiance. Tout cela montre comment une affiche politique peut être bien plus qu'un simple support de communication. Elle constitue un réel outil de propagande pour influencer les perceptions du public sur un candidat politique grâce aux choix artistiques et les messages visuels utilisés. Passons maintenant à une vidéo politique publicitaire. Avez-vous déjà entendu parler de la campagne intitulée « Role Models » de Hillary Clinton ? Une campagne diffusée durant une période marquée par des divisions politiques intenses dans le contexte de la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis. L'une des vidéos publicitaires publiées visait à présenter le contraste entre les valeurs et le comportement de Donald Trump et ce que l'on attendait d'un modèle pour les enfants. Durant la première moitié de la vidéo, on voit des enfants regarder des extraits de discours de Donald Trump où il dit des choses racistes, sexistes et inappropriées.
And you can tell them to go themselves. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Puis le message suivant est montré. Our children are watching, what example we will set for them? Qui veut dire, nos enfants regardent, quels exemples allons-nous leur donner? Et là, on commence à voir des enfants qui regardent un des discours de Clinton, où elle met en avant le fait que les personnalités politiques sont des exemples pour les enfants.
Our children and grandchildren will look back at this time, at the choices we are about to make, the goals we will strive for, the principles we will live by, and we need to make sure that they can be proud.
L'objectif de la publicité est simple, toucher les parents et les familles en mettant en lumière l'impact potentiel des propos controversés de Donald Trump sur les enfants, susciter l'inquiétude, la peur, la consternation et la colère chez les spectateurs. Et au-delà de simplement susciter des émotions, la publicité vise aussi à inciter les spectateurs à agir, à voter pour Hillary Clinton, en présentant son approche comme plus adaptée et respectueuse. Cette vidéo publicitaire illustre comment les émotions peuvent être utilisées comme des outils efficaces dans les vidéos publicitaires. Passons maintenant à la publicité politique par le slogan. En 1995, la pomme n'est plus un fruit comme les autres pour Jacques Chirac. Il en a fait un véritable instrument de publicité au service de sa campagne. Alors pourquoi la pomme ? Avec une consommation d'environ 16 kilos de pommes tous les ans, le fruit préféré des Français s'est imposé un peu par accident. Tout démarre à la fin de l'automne 1994. Jacques Chirac est alors en perdition dans les sondages, avec seulement 15% d'intention de vote. Pour renouer le contact avec les Français, il publie alors un petit livre où il expose son programme, intitulé « La France pour tous », dont le titre deviendra son slogan officiel quelques semaines plus tard. Sur la page de couverture, un petit symbole attire l'œil, un dessin de pommier au-dessus du mot « France ». Ce pommier avait pour objectif d'attirer l'attention sur le livre et a été créé un peu au hasard, mais les gens étaient intrigués. Mais c'est l'émission des Guignols de l'Info sur Canal+, qui a popularisé la pomme. Les auteurs de cette émission satirique ont fait de Jacques Chirac un fanatique des pommes, et ce sont eux qui ont inventé le slogan « Manger des pommes » dans un sketch diffusé en 1995.
Compagnons, mangez des pommes !
Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît.
Oui, mais putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je les bouffais tous, j'ai la niaque.
Et ça plaît, parce que les sondages décollent enfin pour Chirac. La pomme a constitué un véritable symbole pour sa campagne. Des porte-clés pommes, des t-shirts pommes et des gadgets pommes ont même été distribués, et un pommier était présent sur l'affiche officielle de la campagne. Finalement, cette idée née par hasard finira par contribuer à la victoire finale de Jacques Chirac en 1995 et illustre comment un simple élément visuel peut devenir un symbole puissant. Pour conclure, chaque campagne publicitaire est un miroir de son époque, reflétant les enjeux, les valeurs et les préoccupations de la société à un moment donné. En analysant les techniques d'art visuel utilisées, on comprend que la publicité politique est bien plus qu'une simple stratégie de communication. C'est un puissant instrument de persuasion et de manipulation, capable d'influencer profondément les opinions et les comportements des individus au sein de la société. Attention, parce que la publicité politique n'est pas nécessairement toujours synonyme de transparence ou de vérité, et peut être utilisée pour manipuler et déformer la réalité en exploitant les émotions et les préjugés du public à des fins politiques. Donnons maintenant la parole au public. Je vous invite donc à écouter Sylvie et Audrey, qui vont nous partager l'une de leurs expériences avec la publicité.
Je me souviens d'une publicité pour une voiture Il me semble que c'était pour une kangou de mémoire. C'était un papa qui berçait son enfant dans sa voiture devant la porte de son garage en faisant marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. C'est une pub qui m'a touchée par son humanité. Je me suis dit, ça, c'est un papa qui l'a conçu ou une maman. Ça sentait l'expérience derrière et voilà, ça m'avait interpellée à l'époque et je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça ne faisait pas comme la publicité aujourd'hui où on veut vendre à tout prix. Mais là, ça nous rejoignait là où on en était, dans notre humanité. Et je trouvais que c'était pas mal.
Ah, le pouvoir de la pub. Ouais, j'ai pourtant pas l'impression d'être quelqu'un d'influençable de manière générale. Mais je dois bien m'avouer que les pubs bien ciblées sur les réseaux sociaux ont déjà eu souvent un pouvoir persuasif sur moi. Tu sais, la râpe multifonction qui fait de tes courgettes des rondelles parfaites. Ou le petit rasoir à pile qui va te faire des sourcils nickel en un clin d'œil. Quand je vois ces pubs, moi je suis persuadée que ces gadgets vont révolutionner mon quotidien, me faire gagner un temps précieux, et me faire devenir une ménagère, une bricoleuse ou une jardinière parfaite. Et ouais, les publicitaires sont forts et ils m'ont eu. Ils m'ont même doublement eu, puisque la plupart du temps j'avais pas besoin de ces articles. Alors je finis juste par me rassurer en me disant « Waouh, elle est quand même géniale cette mini imprimante de stickers !» Enfin voilà, la liste serait longue de tous les trucs nuls et inutiles que j'ai déjà achetés à cause d'une pub géniale. Mais je me soigne. Bon allez, sur ce, faut que j'aille tester la dernière microfibre. Il paraît qu'elle fait briller mes vitres sans frotter. Je te dirai si ça marche, hein.
Et c'est ainsi que le 6e épisode de Galerie d'Art se termine. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour parler de la bande dessinée. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve le mois prochain. Merci pour votre écoute.